9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Bien le bonjour, camarades auditeurs et auditrices. Maître Serran est ravi d'être parmi vous pour une petite heure au cours de laquelle nous disserterons sur vos problèmes de droit. Votre mission, si vous l'acceptez, est de composer le 01 53 48 3000 et de poser votre question, une question par appel, cela va de soi. Et la mission que j'ai acceptée sera de tenter de vous apporter des solutions, mais vous êtes peut-être trop timide pour passer à l'antenne. Je serai par conséquent joignable après l'émission au 06 62 58 59 64 et vous pouvez même poser vos questions sur mon mail maître.serran@gmail.com. Mais avant de se lancer dans ce jeu de questions-réponses, évoquons l'actualité de la semaine. Alors je sais, mon cher Philippe, que vous êtes un peu frustré, car j'avais indiqué la semaine dernière que je vous raconterais la suite de mon histoire passionnante de tourista en Algérie, mais face à une actualité tragique, mon histoire me semblait complètement accessoire. Et par actualité tragique, je veux bien évidemment parler de cette méga catastrophe en Turquie et en Syrie. La communauté internationale s'est mobilisée, oubliée les rancunes, les relations diplomatiques tendues face à une telle catastrophe. L'homme sait tendre la main à son prochain. Cette aide, nous pouvons nous aussi à notre petit niveau y participer. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher des associations pour fournir couverture, couches, denrées non immédiatement périssables. Mais il y a bien évidemment pas mieux que de mettre la main à la poche et de participer à cette solidarité moyennant finance. L'actualité internationale, c'est également cette tournée de Zelensky en Europe. C'est le seul chef d'État qui ne met jamais de costume, toujours avec ses tenues militaires ridicules, portées trois tailles en dessous pour nous faire croire qu'il a des pecs, et qui n'a surtout qu'une seule envie, que l'Europe entre en guerre contre la Russie. Au début, c'est « je veux des armes légères », ensuite « je veux des missiles », puis « je veux des chars », et vite, « je veux des avions », et vite, et « j'ai besoin d'argent, de beaucoup, beaucoup d'argent ». Qui a envie de mourir pour l'Ukraine? Que celui qui est prêt à mourir pour un pays dont personnellement je m'en balèque lève le doigt. Cette Europe qui se met à genoux devant Zelensky me sidère. Pays de corrompus, c'est pas moi qui le dis, ce sont les faits. Le vice-ministre ukrainien au développement des communautés et des territoires est accusé de détournement de l'argent de contrats d'achat d'équipement pour près de 400 000 dollars. Des fonctionnaires sont soupçonnés de s'être approprié une partie des fonds de l'État destinés à la population. La compagne d'un gouverneur a récupéré via son entreprise des contrats publics de plusieurs millions d'euros et un fidèle de Zelensky a été vu en train de rouler dans un 4x4 destiné à l'aide humanitaire. Et malgré tout ça, l'Europe est en admiration devant ce pays au point que Macron a remis la Légion d'honneur à Zelensky. Et puis tous les jours, on a le droit à une émission sur cette pauvre Ukraine et sur les méchants Russes pour bien lobotomiser les esprits des Français. Faut croire que Zelensky a le derrière le plus propre du monde, tellement les chefs d'État passent leur temps à l'ulhas, l'arrêt. Mais je me rends compte que le temps passe, mon cher Philippe. Il est donc temps de nous appeler pour poser vos questions. Émission sous le contrôle de celui qui n'a pas besoin de porter des maillots trop courts pour mettre en avant ses pectoraux. Monsieur Philippe Robichon, à vous, maestro.
Maître Serran en exclusivité mondiale sur Beurre FM, et Dieu sait que beaucoup d'autres radios sont sur les rangs, Maître Serran, hein, tous les ans, au moment du mercato.
C'est vrai, c'est vrai.
Votre téléphone.
Ouais, en plein
c'est pour
mercato.
Ça que vous donnez votre numéro de téléphone d'abord en début d'émission pour tous les directeurs de radio qui nous écoutent et qui pourraient vous appeler.
Ouais, au cas où.
Oui, mais enfin, de toute façon, vous êtes tellement cher que vous allez rester chez nous encore un petit moment, Maître Serran.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Raison d'un chocolat par samedi.
Ouais, ouais, ouais. Deux.
Alors aujourd'hui deux.
Aujourd'hui deux.
C'est parce que c'est vous qui les avez payés.
Ah oui, c'est vrai.
Donc c'est pour ça que vous en avez eu deux. D'habitude, quand je paye, il y en a un.
D'accord. Donc je suis généreux avec moi.
Exactement, Maître Serran. Le chiffre des morts qui a été annoncé en Syrie et en Turquie, c'est quasiment 25 000 morts aujourd'hui. C'est comme si une ville comme presque Agen disparaissait.
Bah, c'est exactement ça.
Mais quand on regarde les chiffres, on imagine l'étendue de la catastrophe.
C'est vrai qu'on a du mal à imaginer ça. Et puis,
on a du mal, c'est ok.
Et puis, alors c'est vrai, il y a eu beaucoup de critiques sur l'intervention des secours et beaucoup de critiques concernant le président turc. Mais je défie n'importe quel pays au monde d'intervenir dans des délais très courts face à une catastrophe aussi importante. C'est-à-dire que il me semble pas que Erdogan ou que la Turquie n'ait pas fait en sorte d'intervenir le plus rapidement possible. Mais enfin voilà, on est tous conscients de cette catastrophe et de cette ampleur. Donc ça me semble difficile d'envoyer des secours très rapidement dans toutes les villes, dans toutes les villes concernées. Encore une fois, c'est une catastrophe particulière et c'est, j'allais dire, c'est historique en la matière. Donc heureusement, et c'est là où effectivement, encore une fois, ce que je disais, c'est toutes les rancœurs s'effacent, c'est-à-dire que la communauté internationale réagit immédiatement. Heureusement qu'il y a cet aspect-là, mais je me suis toujours posé la question de savoir comment tous ces pays qui envoyaient des hommes, des avions, de la nourriture et autres, comment on devait s'organiser sur place, parce qu'encore une fois,
c'est de la logistique. Ah ouais, alors, c'est de la logistique de guerre là.
Ça aussi, c'est un défi à relever, puisqu'il faut pas se marcher dessus non plus, et puis il faut intervenir auprès des bonnes personnes et dans les bons endroits. Donc c'est vrai que au niveau logistique, chapeau aussi, c'est, j'imagine, pas évident à organiser.
Là, on est dans une logistique d'urgence. Ouais. Hein, on entend beaucoup d'entre vous qui veulent participer, qui veulent être utiles. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce dont il y a besoin, c'est d'argent.
Dans un premier temps, pour pouvoir
aider les opérationnels qui sont sur place, les ONG qui sont sur place. Voilà. Mais c'est vrai que là, ça urge. Hein, donc, on en parlera.
Ça urge. Et puis, effectivement, vous l'avez justement dit, c'est surtout d'argent. Et
là, tout de suite, il faut se dire que le nerf de l'aide aujourd'hui, c'est l'argent et aider les associations qui sont sur le terrain, justement pour acheter des choses qui sont sur place. Enfin, le plus possible.
Ouais, c'est exactement ça.
Alors, Maître Serran, on va revenir sur un sujet qu'on aime bien, mais qui, peut-être, en quelques décennies, a changé de nature. On va parler de la kafala, et aujourd'hui, de savoir comment, justement, faire venir sur le territoire français ceux qui sont bénéficiaires d'une kafala. Déjà, pour tout le monde, pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est qu'une kafala, comment vous la définissez d'un point de vue juridique, Maître Serran?
D'un point de vue juridique, mais on va appliquer la définition, entre guillemets, du droit français. C'est l'équivalent d'une adoption, c'est l'équivalent d'une tutelle. Alors pourquoi je dis c'est l'équivalent? Puisque le droit musulman ne reconnaît pas l'adoption, donc il est certain que la kafala que vous obtenez, alors soit dans le cadre d'une procédure auprès d'un magistrat, soit dans le cadre d'une démarche auprès d'un notaire. Mais la kafala, on va dire, la plus complète est la kafala judiciaire, hein, y a pas mieux. En règle générale, elle n'est pas remise en cause par les autorités françaises. Donc cette kafala va...
Même si les autorités françaises utilisent le terme kafala ou pas du
tout? Oui, les autorités
françaises... aujourd'hui, maintenant,
Oui, les autorités françaises utilisent le terme kafala, hein, donc c'est reconnu. Il y a une circulaire de 2014 qui explique aux administrations, aux tribunaux, comment se comporter face à une kafala. La difficulté, c'est que on part du principe, et c'est une règle, on est en matière de kafala dans ce qu'on appelle l'état des personnes. Tout ce qui concerne l'état des personnes, c'est-à-dire, encore une fois, les histoires d'adoption, de mariage et autres, en principe, cette kafala devrait pouvoir s'appliquer de plein droit sur le territoire français. C'est-à-dire que normalement, et on en parle souvent dans ces émissions, il ne devrait pas y avoir d'exéquature. C'est-à-dire que on ne devrait pas saisir un juge français pour dire « je vous invite à reconnaître cette kafala, donc cette décision judiciaire étrangère, et en gros à la transformer en jugement français ». Donc on devrait être dispensé d'exéquature. Sauf que les administrations sont très compliquées. C'est-à-dire que quand vous présentez à une administration française un jugement étranger, une kafala, on vous regarde avec des gros yeux pour vous dire d'accord, mais c'est un jugement étranger, mais j'aimerais m'assurer que ce jugement étranger est applicable, comme on dit, sur le territoire français. Et pour qu'un jugement étranger soit applicable sur le territoire français, on doit procéder à une exéquature. Et cette exéquature consiste à saisir donc le juge du tribunal judiciaire, l'ancien tribunal de grande instance, et à demander à ce que cette kafala soit reconnue comme un jugement français. L'adversaire, entre guillemets, dans ce type de procédure, c'est le procureur de la République. Et le procureur de la République, il va vérifier quoi? Il va vérifier d'abord que cette kafala a été rendue dans de bonnes conditions, à savoir est-ce que les parents, s'il s'agit pas d'un orphelin, mais donc est-ce que les parents ont bien été auditionnés par le juge étranger? Est-ce que les parents ont bien donné leur consentement? Est-ce que le premier concerné, le kafil, comme on dit, a accepté donc cette mission? C'est une mission qui consiste à vous occuper de l'enfant, à subvenir à ses besoins, à substituer matériellement dans un premier temps. Alors ensuite il y a le côté affection, mais là on est on raisonne en termes juridiques. Donc matériellement les parents qui sont considérés comme n'étant pas en capacité de pouvoir s'occuper de l'enfant. Et lorsque le procureur de la République considère que toutes les conditions sont réunies, que ce jugement est définitif, c'est-à-dire que très souvent, on demande à nos clients d'obtenir du tribunal un document indiquant que le jugement est définitif, c'est-à-dire qu'il n'a été contesté par personne. À partir de ce moment-là, le président du tribunal donc prononce l'exéquature. Donc officiellement, ce jugement étranger devient un jugement français. Alors l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est que juridiquement on va considérer la personne qui bénéficie de cette kafala comme étant le père ou la mère juridique de l'enfant.
En France?
En France.
Donc est-ce que ça veut dire que une kafala peut faire l'objet d'une inscription sur le livret de famille?
Alors la kafala ne fait pas l'objet d'inscription sur le livret de famille pour la simple et bonne raison que, encore une fois, c'est pas... on va d'abord appliquer le droit étranger qui considère qu'il n'y a pas de d'adoption, reconnaissance de l'adoption. Donc vous ne pourrez pas, ni aujourd'hui ni demain, malgré l'exéquature, mettre cet enfant sur votre livret de famille.
Alors vous aurez quoi? Vous aurez le jugement de kafala.
Alors vous avez un jugement de kafala qui, encore une fois, il y a l'équivalent hein, en droit français, c'est ce qu'on appelle la délégation de l'autorité parentale, voire même la tutelle.
Oui, c'est ça, voilà. Ça s'apparente à ça, à une tutelle.
Absolument, voilà. Donc vous allez être considéré comme étant le responsable juridique de l'enfant, et en tant que tel, vous pourrez faire toutes les démarches concernant cet enfant. Et moi, j'ai constaté, vous savez, ça fait plus de 20 ans que je suis avocat, donc des kafalas, j'en ai fait...
Ne dites pas ça, mais ça se voit tellement pas que...
Ah, ben c'est gentil ce que,
non,
ce que
franchement, à la radio, on ne voit pas du tout que vous êtes là depuis longtemps.
Mais je suis comme le bon vin, je m'améliore avec le temps, donc je peux le dire comme ça. Et c'est vrai que on a senti une évolution dans cette kafala. Initialement, la kafala, c'était pour aider un membre de la famille, un neveu ou même un petit enfant, pour dire les parents n'ont pas la capacité, les moyens de s'occuper de cet enfant, donc je vais faire en sorte que...
Il y avait les enfants des pouponnières, enfin toutefois les enfants qui étaient adoptables, on va dire.
Absolument, donc c'est vrai qu'initialement c'était ça. Et puis on constate depuis quelque temps que la kafala est surtout destinée, entre guillemets, j'allais dire, à donner une chance à son enfant. Alors, pourquoi je dis ça? Puisque vous avez des parents qui vont demander à un oncle, à une tante, à une grand-mère de prendre sous leur aile donc l'enfant, pour que cet enfant, une fois que la kafala a été rendue, une fois que l'exéquature a été prononcée, pour que cet enfant finisse par venir sur le territoire français. C'est-à-dire que la finalité, c'est souvent ça. C'est faire en sorte que cet enfant qui vit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, finisse par venir sur le territoire français auprès de la personne qui a bénéficié de la kafala. Donc, c'est vrai que le kafala a été un peu dévoyé. Initialement, c'était pas, on va parler, j'allais presque dire comme le ministre de l'Intérieur, c'était pas pour créer une sorte de filière d'immigration en parallèle. Le sens même de la kafala, c'était pas ça. Il y avait, entre guillemets, ce côté, encore une fois, généreux. On s'est rendu compte que la kafala donc permettait à des personnes en Algérie d'envoyer le ou les enfants et de dire à des membres de la famille, eh ben voilà, je vais faire en sorte d'accorder cette kafala et puis fais venir
la nièce ou le neveu.
Ah oui, c'est souvent ça. Voilà, c'est souvent ça. Donc c'est moralement, ça peut poser problème quand même, puisqu'encore une fois, la kafala n'est pas destinée à ça. Je le redis, la kafala était surtout destinée aux personnes qui n'avaient pas de parents. Donc c'est vrai que ça prend maintenant une toute autre ampleur.
Allez, Maître Serran, que vous interrogez, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, Maître Serran, au 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Vous connaissez le principe de cette émission, vous avez un numéro de standard à votre disposition, 01 53 48 3000. Et vous interrogez Maître Serran en direct, vous posez vos questions juridiques. Et c'est Kadri qui est avec nous. Kadri, bonjour et bienvenue.
Voilà, je vais parler à Maître Serran, s'il vous plaît.
Alors, je vous passe Maître Serran en personne, Kadri, si ça vous fait plaisir.
Bonjour, Kadri.
Je vous remercie.
Alors, Maître Serran.
Allez-y, on vous écoute.
Voilà, Maître, je suis né en 1961, ici à Saint-Germain, en France. Et puis, entre-temps, mon père a décidé de partir en Algérie. J'avais 18 ans.
D'accord.
Ouais. Puis j'ai étudié ici bon, jusqu'à l'âge de 18 ans. On est rentré en Algérie. Et puis là-bas, je suis resté un bout de temps en Algérie. Et je suis revenu, ça fait 5 ans que je suis en France, là. J'ai déposé mon dossier pour avoir un titre de séjour à la préfecture de Lyon. On m'a donné un récépissé. Et
oui.
Après, c'était six mois, et entre-temps, je suis tombé malade, j'avais un cancer de la prostate, un cancer avancé.
Ouais. D'accord.
J'ai soigné à l'hôpital de Lyon, à Mermoz. Ouais, ça va mieux maintenant. Et puis, entre-temps aussi, j'ai fait une opération des poumons, la nodule. Voilà. Et maintenant, ça va faire 5 ans que je suis en France, au mois de mai, le 3 mai, ça fait 5 ans. Et je suis toujours sous récépissé à la préfecture de Lyon.
D'accord, c'est-à-dire que, en gros, tous les 6 mois, vous recevez un récépissé.
Ouais. Oui, c'est tous les 6 mois maintenant, c'est tous les 3 mois.
Tous les 3 mois. Le document qui vous est remis, est-ce que ça concerne alors la personne qui vient sur le territoire français et qui veut être régularisée, je dis n'importe quoi, par le travail ou autre, ou vous, c'est le côté médical qui a été mis en avant?
Oui, j'ai changé de statut.
Alors, c'est-à-dire?
Entre-temps, ils m'ont donné un courrier que j'ai ramené au médecin.
Ouais, d'accord.
Au médecin qui m'ont... Ils l'ont rempli et tout, puis je l'ai renvoyé à la préfecture.
D'accord. Alors, donc, c'est plutôt le côté médical. C'est-à-dire que a priori, c'est un titre pour les personnes qui ont besoin de se faire soigner sur le territoire français qui a été sollicité.
Voilà. Au début, non, c'était pas. Voilà. Là. Après, comme j'étais malade, j'ai changé de statut. Voilà.
Alors, le... C'était la bonne démarche, mais le truc, c'est qu'à partir du moment où on considère que soit vous êtes guéri, soit le suivi post-opératoire peut se faire, j'ai n'importe quoi, une fois par an, une fois tous les 2 ans, auprès de votre médecin, donc ils peuvent invoquer cet argument-là pour dire « Ok, monsieur, on vous a autorisé à rester pour vous faire opérer, pour vous faire soigner, mais... c'est un collège de médecins qui se prononce. Nos médecins considèrent que désormais, vous avez la possibilité d'être suivi, mais il faut retourner au pays et puis vous viendrez si vous avez un rendez-vous pour être vu par votre médecin. Donc, il faut toujours, alors j'allais dire se méfier, c'est peut-être pas le bon terme, mais oui. tous les titres qui concernent les étrangers malades sont des titres. C'est-à-dire par définition provisoire, sauf évidemment, mais ce qu'on ne souhaite à personne, sauf évidemment si c'est une maladie, on va dire incurable, ou qui nécessite d'être suivi que sur le territoire français, parce qu'au pays, soit il n'y a pas les médecins, les structures, les médicaments et autres. Donc, ouais, hein, c'est quelque chose en règle générale de très très lourd. Mais vous risquez à moyen terme d'avoir ça comme retour. C'est-à-dire qu'on pourrait vous dire, monsieur, c'est bon, notre collège de médecins considère que vous n'avez pas besoin de rester en France à plein temps. Et s'il y a besoin d'un suivi, encore une fois ou deux fois dans l'année, ben vous demanderez un visa pour venir, mais ensuite, il faut repartir.
D'accord.
Ouais, voilà. Hein, mais ce que je vous dis là concerne toutes les personnes qui demandent un titre en qualité d'étranger malade. C'est-à-dire qu'on vous donne ce titre, mais la France considère que si vous n'êtes plus malade, Si vous êtes guéri, ou encore une fois, ou si votre présence n'est plus nécessaire à plein temps sur le territoire français, faut retourner au pays et puis vous viendrez voir votre médecin ou le service qui s'est occupé de vous sur rendez-vous. Et généralement, voilà, c'est une fois, deux fois par an. Donc, il peut y avoir ça comme réponse.
Oui.
Mais là, au niveau de votre pathologie, monsieur, alors sans être indiscret, c'est-à-dire vous en êtes où? On vous dit que c'est terminé, qu'il n'y a plus de caractère d'urgence. Qu'est-ce qui vous ont dit?
Au niveau du cancer avancé, c'est traité, je suis guéri, quoi.
D'accord.
Et au niveau de nodule du poumon, j'ai des rendez-vous tous les 6 mois, quoi.
Donc, j'allais dire, techniquement, il n'y a rien qui interdirait, voilà. Vous voyez, si vous dites j'ai des rendez-vous tous les 6 mois, il n'y a rien qui interdirait aux autorités françaises de vous inviter à retourner au pays et de vous dire dès que vous avez le document justifiant de ce rendez-vous, on vous remettra un visa et puis vous viendrez pour le rendez-vous avec un retour au pays par la suite.
D'accord.
Ouais, donc ça, c'est le contre-coup du titre pour les étrangers malades.
Hein. Ah, d'accord.
Est-ce que vous avez une autre question, Kadri?
Oui, juste parce que à chaque fois, on me donne un récépissé. C'est un renouvellement. C'est tout.
Ouais, mais alors, là, dans la mesure en plus où vous me dites qu'a priori, ça va mieux, il est peu probable qu'on vous remette un titre.
Ah, d'accord.
Oui, c'est-à-dire que il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire que je vous remets un récépissé. En gros, c'est simplement pour dire que alors votre dossier est en cours, mais parfois, même quand on a eu 2, 3, 4, 5 récépissés, parfois il y a une déception. C'est-à-dire qu'on peut vous donner ce qu'on appelle une obligation de quitter le territoire. C'est-à-dire que souvent, les gens pensent que quand le récépissé est renouvelé, a priori, on aura une bonne nouvelle. Parfois, non. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs récépissés et puis une obligation de quitter le territoire. Mais là, de ce que vous êtes en train de me dire, et si vous avez été autorisé à rester sur le territoire français par rapport à votre pathologie, si c'est tant mieux, et si ça va mieux, la probabilité pour que les autorités préfectorales vous invitent à retourner au pays, elle est forte.
D'accord.
Voilà, Kadri.
Je vous remercie, Maître Serran.
Merci pour votre appel, Kadri. Bon courage à vous.
Merci, bonne journée.
Soin de vie. Alors, nous avons Mohamed qui est avec nous. Mohamed, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Oui, Mohamed.
Oui, je vous appelle, c'est pour renseignement, pour les délais de prescription, pour la récupération par l'État, par le Conseil général. Pour une personne qui a été placée en hébergement EHPAD.
Oui, c'est-à-dire
la prescription. Parce que le moment de qu'on demande, enfin, c'est une personne qui a été hospitalisée à l'hôpital, long séjour, qu'on peut dire. La famille n'avait pas les moyens, donc il est intervenu l'État. De payer, mais c'est récupérable par la suite à l'héritage. Je veux savoir le délai de prescription.
Si c'est récupérable.
La récupération des dettes sociales.
Ouais, oui, mais si c'est récupérable, comme vous dites, à l'héritage, c'est-à-dire qu'effectivement, les autorités françaises avancent les fonds et puis cet argent, il sera récupéré au moment du décès de l'intéressé et lorsqu'il y a le partage de l'héritage, évidemment. Non, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que à partir du moment où la personne décède et qu'on en vient à se partager cet héritage, l'État français vient mettre la main sur ce qui de droit lui revient.
Mais on peut refuser la succession.
Alors, on a le droit de refuser la succession, et d'ailleurs, parce qu'une succession, ça peut être, entre guillemets, que du négatif. C'est-à-dire que souvent, quand on entend succession, on se dit, c'est de l'argent que je vais récupérer. Donc, les gens sont quand même invités, avant de dire oui ou de dire non, invités à demander ce qu'il en est de cet état successoral, de voir si c'est du positif ou du négatif. Et si effectivement c'est du négatif, j'ai le droit, moi, de refuser la succession. Et si je refuse la succession, le créancier de l'intéressé ne peut pas me tomber dessus. Maintenant, à partir du moment où la succession est acceptée, c'est-à-dire je ne peux pas accepter qu'une partie,
oui,
entre guillemets, que le
qu'est-ce
côté
qui est positif,
voilà, positif, créditeur, d'accord, de la succession, j'accepte ou je refuse, mais dans son intégralité. Mais si j'accepte, il est certain que les créanciers qui n'ont pas pu obtenir leur argent au moment où la personne était était de ce monde peuvent légitimement d'ailleurs soit récupérer l'argent de la succession, soit éventuellement, si la succession n'est pas suffisante, se rapprocher des uns et des autres pour dire bah vous êtes redevable d'eux.
Et récupérable si les biens sont à l'étranger. En Algérie, par exemple.
Après, c'est très compliqué. C'est-à-dire que juridiquement.
En Algérie, ils peuvent récupérer.
Voilà, mais c'est pas qu'ils peuvent pas récupérer. C'est-à-dire juridiquement, c'est encore une fois juridiquement que le bien soit à Hong Kong, en Algérie ou ailleurs, il y a la possibilité. En tout cas, ils peuvent techniquement le faire. Maintenant,
ah, d'accord.
On sait que souvent les questions me sont posées où j'ai des personnes qui entre guillemets se déclarent insolvables en France et qui me disent mais on a des biens en Algérie. Oui, techniquement, ça va être compliqué.
D'accord.
Mais vous savez, au bout d'un moment, on avait eu avec un cabinet algérien, on avait été contacté pour ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les autorités françaises, pardon pour le terme, vont vouloir ne plus accepter de se faire bananer. C'est-à-dire que on peut pas dire en France, je suis insolvable et en Algérie, j'ai des biens. Donc c'est vrai, d'accord, que je me souviens qu'on avait été contacté pour mettre à exécution les décisions françaises pour récupérer cet argent pour ceux qui seraient ou qui sont solvables même à l'étranger.
D'accord.
Et puis, indépendamment de ça, monsieur, c'est-à-dire que moi je considère que même moralement, il y a une responsabilité, c'est-à-dire que si une institution, l'État, peu importe, dépense de l'argent, prend en charge la personne, alors que cette personne soit pas solvable à ce moment-là, dont acte, mais moi je considère qu'il est normal de payer ensuite ses dettes que vos biens
sont
en Algérie ou pas. Oui, mais là c'est l'aspect moral, c'est pas l'aspect juridique.
Juridiquement,
on peut toujours éviter de le faire, mais voilà, après c'est l'intéressé et sa conscience.
Non, mais disons que, comme vous avez dit, Maître Serran, on est passé comme quoi, au tribunal, comme quoi, l'héritage, on ne prenait pas.
Donc, l'héritage, pardon, quoi?
Oui, vous avez renoncé.
On est passé au tribunal, ouais, déjà. On a signé comme quoi que, l'héritage est abandonné. Hein, on a signé.
Devant, d'accord, oui, c'est-à-dire que vous n'avez pas accepté, donc, la succession.
La succession, c'est une signature.
D'accord.
La famille, on parle de la famille. Je suis pas tout seul, c'est la famille. Donc, s'il y avait l'héritage, donc on ne prenait pas cet héritage devant les juridictions.
Bah donc, quelle serait la crainte dans ce cas-là?
C'est-à-dire, c'est par rapport à plus de 20 ans, parce que c'est par rapport à un bien, si c'est un petit bien, comme on peut dire, qui se trouve à l'étranger. On l'a abandonné, on n'a pas déclaré. Je crois qu'il y avait à l'étranger un bien, on n'a pas fait déclaration qu'il y avait un bien au pays.
C'est l'objet de
votre question.
Il y a zéro risque en la matière dans ce cas-là. Ils vont pas diligenter un détective privé ou mener une enquête à l'étranger pour voir si la famille X n'a pas caché tel ou tel bien. Donc il y a zéro inquiétude par rapport à ça.
C'est juste un terrain, un petit terrain de 100 mètres carrés. Il est abandonné. La déclaration n'a même pas été faite de décès par rapport à cette propriété.
Donc, il y a vraiment zéro risque.
Ah, d'accord.
En fait, vous voulez savoir si aujourd'hui l'administration française pourrait venir vous réclamer ce dû. Voilà.
Quand bien même ce serait plus récent. Les autorités françaises, vont pas mettre toute cette énergie pour essayer de récupérer un éventuel terrain. Donc, il n'y a pas de risque là-dessus.
C'est en 2008 qu'il est décédé la personne. En 2008, ça fait 20 ans maintenant. On n'est plus intéressé. Enfin, il est dans l'abandon.
Non, il n'y a pas d'inquiétude, monsieur.
Merci, Maître Serran.
Merci
bonne journée.
À vous pour votre appel.
Et d'ailleurs, Maître Serran ne communiquera pas votre numéro de téléphone à l'administration française, donc soyez tranquille.
Il n'y a pas de risque.
Pas, hein, je ne m'inquiète pas.
Merci, Mohamed.
Merci, au revoir.
Au revoir, Mohamed. D'autres questions juridiques à Maître Serran dans un instant. Profitez de la page de publicité pour nous appeler au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, et vous voulez poser vos questions juridiques à Maître Serran, vous le faites au 01 53 48 3000. Maître Serran, nous accueillons Leïla qui est avec nous. Leïla, bienvenue.
Allô ?
Bonjour Leïla.
Bonjour Philippe, bonjour Maître Serran.
Bonjour Leïla.
Oui,
j'ai
une question pour Maître Serran.
Alors attendez, Leïla, on va répondre à votre question, mais si vous avez le kit main libre ou le haut-parleur...
Non, bah... ouais. Pas du tout, bon. Pas du tout.
Alors, parce que bougez un petit peu, on vous entend mal.
Là, je suis immobile, c'est bon ?
Alors, c'est un peu mieux. Allez-y, Leïla.
D'accord. Et question pour mettre ça.
Ouais, alors ça...
Ah, on a perdu Leïla.
On a perdu Leïla. C'est pas beaucoup mieux, en fait. Bon. Alors, Leïla, on va essayer de régler tout ça. On va accueillir Hadji, qui est avec nous. Hadji, bienvenue.
Oui, bonjour.
Oui, Hadji.
Oui, bonjour. En fait, moi, je voulais poser une question pour Maître Serran, s'il vous plaît. Ça ne dérange pas, en fait.
Non, ça l'arrange, même.
L'émission est faite pour ça, Hadji. N'hésitez pas.
Oui, d'accord, ok. Mais non, mais c'est juste, en fait, je le dis parce que moi, je respecte tout le monde. Donc, voilà, ça fait partie du respect, en fait. Voilà.
Oui, avec plaisir, Hadji.
Bien sûr, Hadji.
Merci, c'est gentil. Ouais.
Alors, allez-y. Maintenant que Maître Serran est respecté, vous pouvez y aller, Hadji.
D'accord, ok. Oui, bonjour, maître. En fait, moi, je voulais vous poser une question qui est un peu simple et en même temps pour voir un petit peu la raison à qui a raison, à moi ou bien à l'école. En fait, moi, mon fils, il a un problème d'handicap, mais c'est pas un handicap, c'est un handicap motrice. En fait, c'est pas moteur, c'est motrice, en fait, dans les bras et dans les jambes.
D'accord.
Donc, en fait, maintenant, moi, je le suis un peu partout dans l'Europe. Et comme ils ont trouvé un petit peu comment ça s'appelle, ils ont trouvé le médical à lui. Alors, moi, j'ai appelé vers Strasbourg, parce qu'en fait, il est suivi à Strasbourg, et en même temps à Stuttgart, en Allemagne.
Ouais.
Donc, et là, j'ai appelé le médecin à lui, donc, le spécialiste par rapport à ça. Par rapport à sa maladie, donc j'ai appelé, donc il dit soi-disant que c'est pas ce médicament pour lui et tout ça, donc c'est pas grave, donc là je saute cette étape. Et après moi l'école l'année passée je l'ai pas mis à l'école parce qu'en fait moi je voulais installer sur Strasbourg, comme moi j'habite à Toulouse, je voulais installer, et pendant toute l'année en fait j'étais hébergé par des amis de la famille, mais c'est trop petit en fait, je pouvais pas l'inscrire, même je suis parti à la mairie, ils veulent pas l'inscrire parce que j'ai pas une adresse fixe par rapport à moi et par rapport au petit, malgré moi j'ai toujours mon appartement sur Toulouse, je suis sur Toulouse, donc voilà. Et après cette année j'ai voulu l'inscrire, depuis septembre je cours derrière l'école parce que là maintenant il est au collège. Cette année, il devrait être au collège. Et comme l'année passée, il a perdu un petit peu l'école. Bon, c'est pas grave. Mais là, en fait, lorsque j'ai fait l'inscription depuis septembre, donc ils ont pas trouvé une AESH pour lui, en fait. Et cette AESH, donc ils vont de la trouver juste maintenant. Je sais pas s'ils l'ont trouvé avant ou maintenant. Je sais pas. Et après, ils m'ont fait tourner, en fait, jusqu'à maintenant. Ils m'appellent la semaine passée pour faire une réunion pour l'accueil du petit, en fait. Et là, ils ont fait une réunion. Il y avait une 13 personnes sur ma tête pour me poser des questions pour tada nuit. Bon, moi j'étais présent avec le petit, j'ai montré, c'est-à-dire comment qu'il faut faire tada nuit par rapport au petit. Donc, et après, tout à coup, en fait, ils me demandent le dossier maintenant. Alors, le dossier, moi je voulais juste cette question qui est trop sensible par rapport à moi. Moi, je suis divorcé depuis 6 ans de ça. Alors, ils me demandent toujours, en fait, le truc de divorce. Est-ce que c'est obligatoire que je leur donne ou pas ? Parce qu'il était inscrit à l'école depuis avant, et maintenant, il est toujours sur Toulouse, en fait.
En fait, pourquoi est-ce qu'ils demandent la décision de divorce ? C'est pour simplement vérifier ce qui a été décidé par le magistrat. Alors, le magistrat va préciser qui a l'autorité parentale. C'est-à-dire, est-ce que c'est monsieur, d'accord, est-ce que c'est madame, ou alors l'autorité parentale, elle peut être... commune. Et ça, c'est important.
Commune.
Voilà. Alors, commune, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si l'enfant est avec vous, c'est-à-dire que même si vous avez la garde de l'enfant, pour des traitements, pour un établissement scolaire, peu importe, on a quand même besoin du feu vert de la maman si elle a l'autorité parentale commune. Voilà, donc, et par définition, voilà, quand c'est partagé, alors le père peut dire, moi je vais être mon enfant à tel endroit, mais on vous dira, monsieur, vous êtes divorcé, que dit le jugement? Et si le jugement dit que c'est partagé, on demandera quand même le feu vert de madame.
Justement, la garde partagée, mais cette dame, je ne la vois plus. En fait, elle vient de temps en temps qu'elle veut, dans deux ans, un an, un an et demi, tout dépend quand elle veut.
Le jugement,
en fait, elle vient.
Alors, mais ce qui est important, monsieur, indépendamment du fait qu'elle vienne ou pas, il faut d'abord reprendre le jugement à la base. Est-ce que le jugement, alors j'imagine que oui, est-ce qu'il accorde l'autorité parentale conjointe?
Si, il y a l'autorité, en fait, l'autorité parentale, elle est partagée.
Voilà.
Mais
alors,
par contre, moi, elle vient pas, et j'ai pas envie de rentrer dans les conflits,
ouais,
en fait.
Indépendamment
moi, je la laisse,
ça.
En fait, si elle veut venir le voir, elle vient, si elle veut pas, bon,
j'entends bien.
Moi, il est bien avec moi, donc il lui manque absolument rien.
Ouais.
C'est juste, en fait, le fait
Je vais essayer de répondre. J'ai bien compris. Autorité parentale conjointe. Mais, puisque vous avez une décision, les administrations, quelle que soit l'administration, ils veulent pas savoir si madame elle vient ou elle vient pas, si elle vient régulièrement voir l'enfant ou pas. Eux, ils se basent sur le jugement. Si le jugement dit autorité parentale conjointe, même si la mère de l'enfant ne vient plus le voir, c'est cette décision qui va être appliquée, qui est applicable. Maintenant, si vous considérez, et ça je peux le comprendre, que madame vient en gros quand elle a envie, et donc elle s'intéresse pas plus que ça à la situation, et donc que cette autorité parentale conjointe peut poser problème, puisque c'est vous qui gérez le quotidien de votre enfant, vous êtes obligé de retourner devant le juge pour faire part de cette situation, et le juge aux affaires familiales va rendre une décision où il vous accordera l'autorité parentale exclusive, c'est-à-dire que vous pourrez faire toutes les démarches sans que l'administration puisse vous dire non mais attendez, est-ce que madame est d'accord ou pas. Mais pour l'instant, monsieur, c'est pénible, mais c'est la décision qui veut ça. Même si madame ne vient pas régulièrement, ils ont le droit de vous dire, monsieur, on veut voir le jugement, et que dit le jugement?
Et pourquoi il me demande, moi, c'est-à-dire, elle est dans quelle adresse? Moi, je connais même pas son adresse.
Ah ouais,
je
c'est
connais
tout le problème.
Elle m'appelle avec des téléphones de temps en temps. Ouais. Elle m'appelle parce qu'elle veut venir. Elle l'appelle avec un téléphone que je connais pas. Donc voilà.
Ouais, mais alors,
et
il
pourquoi
faudrait...
à l'école il me demande de ça, en fait? Aussi, c'est un peu embêtant.
Non, mais
pour moi.
Non, monsieur, le alors dans votre situation, c'est embêtant. Sauf que en vérité, ils appliquent la loi. Il est normal que si dans le jugement c'est indiqué autorité parentale conjointe, que moi, administration, j'essaie de joindre madame pour dire, voilà, il y a monsieur qui fait ça, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Maintenant, si, comme vous dites, s'il n'y a pas d'adresse, il faudrait, monsieur, y penser sérieusement, mais il faudrait peut-être saisir le tribunal. Alors, ce sera le tribunal de la dernière adresse connue de madame. Donc, si vous avez un papier où il y a son adresse...
Je l'ai pas, en fait.
Alors, dans ce cas-là, sera la dernière adresse qui apparaît sur le jugement.
D'accord. Okay.
Voilà.
Celle de là où j'habitais avec elle.
Avec elle. Donc, il y a un huissier qui va débarquer là-bas, qui dira, madame n'est pas là-bas, ou personne connaît madame. On s'en fout, puisque vous avez un document officiel qui dit que c'était la dernière adresse de madame. Et il faudra demander, alors faire part de tout ça au juge aux affaires familiales. Et le juge aux affaires familiales, s'il a l'impression qu'il y a une sorte de démission de madame, vous accordera l'autorité parentale exclusive, et puis il n'y a plus personne qui pourra vous embêter avec ça.
Ben justement, moi je réagis, en fait, excusez-moi pour vous le dire, je réagis comme un arabe, en fait. Je n'ai pas envie que j'enlève tout ça pour elle, malgré, elle est partie, malgré tout ça. Donc moi, je sais pas comment je vous explique cette situation un peu, c'est un peu délicat pour moi. Et après, moi, j'ai pas envie de rentrer dans les conflits, dans les trucs comme ça, dans les bababa, et tout ça.
Ouais, c'est mais le problème, fait, monsieur, moi... c'est que si vous faites pas ça, l'administration française va pas réagir comme un arabe. L'administration française...
Oui, je sais, non, mais
voilà,
je comprends.
Vous voyez, ça risque de vous bloquer pour des démarches qui sont justifiées pour votre enfant. Mais l'administration française doit se baser, mais ça me semble normal, doit se baser sur le dernier jugement. Et si le dernier jugement dit que l'autorité parentale est conjointe, c'est normal qu'ils disent est-ce que madame est d'accord ou pas.
D'accord. Okay. Mais moi, j'ai pas d'adresse, j'ai rien. Donc
c'est pas contre vous, hein, en plus. Ça n'a rien. Ouais, c'est la loi qui est applicable à tout le monde.
Mais, non, encore mais une fois, monsieur, si vous n'avez pas l'adresse, c'est pas grave. Ouais. La dernière adresse connue, c'est celle qui apparaît dans la décision. Donc, dans ce cas-là, la procédure se fera auprès du tribunal de cet ancien domicile.
D'accord. Où est-ce que où je peux y aller en fait si je fais cette procédure directement au niveau du tribunal ou c'est où en fait?
Ouais, c'est au niveau du tribunal, c'est le tribunal judiciaire, l'ancien tribunal de grande instance de la ville où madame habitait. Alors, c'est une procédure devant le juge.
Madame habitait, je sais pas où est-ce qu'elle habite, c'est ça le problème.
Monsieur, sur le jugement. Le dernier jugement, il y a une adresse quand même, non? Le jugement de divorce?
Non, le dernier jugement, c'était en fait, moi j'ai gardé l'enfant avec moi dans le même appartement, et elle est partie de mon appartement là où elle était avec
compris.
Moi. Donc après elle est partie, je sais pas, c'est son adresse.
Mais non, mais monsieur, laissez-moi terminer. Donc, on est d'accord, donc c'est l'adresse où le madame a mis son dernier doigt de pied. Donc c'est l'adresse c'était l'adresse commune.
D'accord, l'adresse commune, mais elle est partie, moi j'ai gardé cet appartement,
j'ai bien compris, mais ça c'est pas grave, la loi est bien faite, c'est cette adresse qui permettra de déterminer le tribunal, donc vous allez auprès du tribunal, c'est une procédure devant le juge aux affaires familiales, donc l'avocat n'est pas obligatoire, même s'il est fortement conseillé, je le dis tout le temps, mais c'est pas obligatoire, donc vous pouvez aller sur place, et puis on va vous donner un formulaire. Ce formulaire, faudra le remplir, l'envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception. Vous serez convoqué. Donc vous, il faut donner votre adresse actuelle, évidemment. Et madame recevra un courrier à la dernière adresse que vous allez communiquer. Mais qui reviendra en disant, n'habite pas à l'adresse indiquée.
D'accord, ok. Ça marche, ok. Eh bien, écoutez, donc...
C'est la seule possibilité pour que l'administration vous laisse tranquille, hein.
D'accord, ok. Oui, mais en fait, je vous comprends très bien, mais moi, c'est juste, en fait, par rapport à l'école, ils me demandent à chaque fois ce genre de papier, donc je n'ai ras-le-bol, parce que moi, en fait, comme j'ai toujours dit, je fais tous les ministres, je suis avec le petit, l'intérieur, l'extérieur, l'administratif, l'école, pour trouver une solution pour lui par rapport à sa maladie, je suis un peu partout dans l'Europe, je cherche, je fouille dans la médecine, donc même dans mon pays d'origine, dans ailleurs, donc là où je trouve, c'est-à-dire un petit trou que je puisse passer, donc j'y vais avec le petit pour qu'il soit bien, en fait. Voilà, c'est ça, en fait, tout ça, ce que je suis en train de faire, c'est énorme, mais j'assume mes responsabilités, de toute façon, jusqu'à présent, j'assume mes responsabilités. Donc, c'est pour cela que je vous dis, en fait, là, il me demande trop de choses à chaque fois, donc c'est un peu embêtant pour moi.
Oui, mais une fois que vous aurez ce jugement, monsieur, vous serez tranquille, vraiment. Vous voyez, alors, c'est une étape supplémentaire. Mais ça vaut le coup de le faire. Comme ça, l'administration ne vous embêtera plus.
Adi, on ne peut pas rester avec vous puisque l'émission termine. Vous pouvez appeler Maître Serran après l'émission. Maître Serran, redonnez votre numéro de téléphone.
Je suis joignable au 06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Bon, et si vous n'avez pas pu noter de numéro, on vous le redonnera. Hors antenne, Maître Serran, on vous retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Tout le monde attend la suite de vos aventures avec beaucoup d'impatience.
Ouais, écoutez, s'il n'y a pas de catastrophe dans le monde, à ce moment-là, je reviendrai.
Nous aurons droit à la suite de vos aventures.
Complètement.
En parlant d'aventure, l'imam Abdelali Mamoun sera là dans un instant pour l'islam au présent. Restez avec nous puisque ce sera l'islam au présent jusqu'à 11h.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.